Les jours s'écoulaient à un rythme immuable et doux, sans apporter dans le comportement de ma femme un semblant de compassion à l'égard de ma nouvelle condition. La nuit, il me fallait endurer le calvaire de ses assauts effrénés, prenant des formes aussi disproportionnées que les soupirs, une main ou l'extrémité d'un pied, convoitant l'une ou l'autre partie de mon corps, ce qui m'obligeait à la repousser en feignant le sommeil, jusqu'à ce qu'elle consente, en silence, à se retourner vers le mur. Étrangement, il ne restait pas trace le lendemain du combat qui nous avait affrontés l'un l'autre. Chaque soir, vers 19h, Laurence rentrait du bureau, un sac de provisions à la main, s'enquérait avec candeur des avancées de ma recherche d'emploi, avant de se diriger vers la chambre, où elle passait une tenue décontractée, et, sans plus se soucier de ma présence, s'attelait dans la cuisine à nous concocter une des recettes savoureuses dont elle avait le secret. Il ne faisait aucun doute que Laurence se vengeait de l'humiliation que je lui faisais subir en m'imposant un gavage en bonne et due forme et, le cœur au bord des lèvres, vautrée devant le plateau chargé des reliefs de ses plantureux repas, endurant stoïquement les pleurnicheries des invités du plateau de quelque émission de témoignage, je repensais au comte Hansel et Gretel, ces deux enfants contraints de s'empiffrer de pain d'épices et laisser palper à la sorcière l'évolution de leur embonpoint au moyen d'un doigt passé au travers des barreaux d'une cage. L'histoire dont le souvenir, vaguement oppressant, m'entraînait, accablé par le poids du repas pantagruélique, à tâter machinalement la circonférence de mon index, tandis que Laurence, ébranlée par les témoignages bouleversants se succédant à l'écran, essuyait furtivement ses yeux embués par l'émotion. Nouée par une vague nausée, je l'embrassais sur le front et, le repas terminé, filais me réfugier sous les couvertures en priant de trouver le sommeil avant que le corps de ma si sensible épouse ne tente d'annexer le mien par de nouveaux subterfuges. Ce n'était qu'après l'avoir entendu claquer la porte au matin que je consentais à me lever pour me diriger d'un pas mal assuré vers la cuisine, où je tentais de dissiper le voile de brume environnant en me préparant un café serré. L'essentiel de mes journées passées enfermées chez moi, je prenais du poids. Mes dents tombaient en morceaux et personne ne se souciait de l'étrange anomalie dont relevait jour après jour mon apparence physique. Non contente de feindre qu'elle ne se rendait compte de rien, Laurence démontrait que le fait de me savoir à la maison, tandis qu'elle luttait contre un nombre conséquent d'adversaires dans la jungle affairée de la finance, contribuait à aiguiser un appétit que rien ne semblait pouvoir combler. Mon inaction l'excitait, et plus je persistais à me débattre, à me renfrogner dans un espace que réduisait comme peau de chagrin sa formidable concupiscence à mon égard, plus il semblait que l'appétit de ma femme aux yeux creux croissait à la manière anarchique d'un arbre poussant sans tuteur. Pire encore, Laurence ne feignait pas plus de se justifier sur son changement d'état que chercher à traduire un quelconque ressentiment devant mon acharnement flagrant à la repousser. Le temps passant, je m'imaginais, enfant famélique et peureux, contraint de laisser sa geôlière tâter les bourrelets sur ses hanches au gré de rêveries digestives où les traits de Laurence se brouillaient pour emprunter ceux de la sorcière du comte de Grimm, que je me figurais vêtue d'oripeaux plus sombres que le plumage des oiseaux de mauvais augure, ses corvus couronnés, si friands d'insectes et de cadavres de rongeurs, qu'ils en gardaient la réputation de vampires affamés de chair, au sang pétrifié. Ces corbeaux cadavres, comme on les appelait le plus souvent. Ainsi, ma femme s'apparentait à cet oiseau solitaire et sédentaire, sillonnant les régions boisées de France et de Navarre, et qui se rassemble en troupe à la fin de l'été, dans des régions où la nourriture est abondante.